Psaume 138. Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais. Tu sais quand je m'assois, quand je me lève. De très loin, tu pénètres mes pensées. Que je marche ou me repose, tu le vois. Tous mes chemins te sont familiers. Avant qu'un mot ne parvienne à mes lèvres, déjà, Seigneur, tu le sais. Tu me devances et me poursuis, tu m'en sers, tu as mis la main sur moi. Savoir prodigieux qui me dépasse, hauteur que je ne puis atteindre. Où donc aller loin de ton souffle, où m'enfuir loin de ta face? Je gravis les cieux, tu es là, je descends chez les morts, te voici. Je prends les ailes de l'aurore et me pose au-delà des mers. Même là, ta main me conduit, ta droite me saisit. J'avais dit, les ténèbres m'écrasent, mais la nuit devient lumière autour de moi. Même la ténèbre pour toi n'est pas ténèbre, et la nuit comme le jour est lumière. C'est toi qui as créé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je reconnais devant toi le prodige, l'être étonnant que je suis. Étonnantes sont tes œuvres, toute mon âme le sait. Mes os n'étaient pas cachés pour toi quand j'étais façonné dans le secret, modelé aux entrailles de la terre. J'étais encore inachevé, tu me voyais. Sur ton livre, tous mes jours étaient inscrits, recensés, avant qu'un seul ne soit. Que tes pensées sont pour moi difficiles, Dieu, que leur somme est imposante. Je les compte plus nombreuses que le sable. Je m'éveille, je suis encore avec toi. Dieu, si tu exterminais l'impie, homme de sang, éloignez-vous de moi. Tes adversaires profanent ton nom, ils le prononcent pour détruire. Comment ne pas haïr tes ennemis, Seigneur, ne pas avoir en dégoût tes assaillants? Je les hais d'une haine parfaite, je les tiens pour mes propres ennemis. Scrute-moi, mon Dieu, tu sauras ma pensée, éprouve-moi, tu connaîtras mon cœur. Vois si je prends le chemin des idoles et conduis-moi sur le chemin d'éternité. Alors, j'ai fait retirer le S du titre « Libre à l'image de Dieu » parce que je crois que la liberté est une affaire extrêmement personnelle et qu'il s'agit toujours de chacun, hein, du sujet. C'est je qui suis libre et pas nous et pas le groupe et peut-être souvent même le groupe est contraignant, voilà, mais libre, c'est moi, libre à l'image de Dieu, hein. Je suis à l'image de Dieu, voilà, juste un détail, hein. Alors je vous ai lu, hein, ce psaume 138, magnifique. Hein, dès avant de notre naissance, Dieu nous désire, il tisse notre chair dès le sein de notre mère, et cela sans nous déterminer et en respectant notre liberté. La réalité de notre propre chair, de notre humanité, est la seule réalité. Il n'y en a pas d'autre pour nous. Et nous sommes conviés à vivre cette réalité de notre chair de façon heureuse, quelle qu'elle soit, même si cette réalité est limitée, lourde, imparfaite. Notre être, notre chair, semble souvent être un lieu de contrainte, mais nous devrions l'habiter comme une richesse infinie de liberté, de satisfaction, de découverte, d'émerveillement. Quand je parle de chair, je parle de l'être entier. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Oser la chair ». Alors, la chair est pour moi un thème essentiel. Il s'agit de l'incarnation. Nous sommes d'une religion qui défend l'incarnation et nous devrions être les experts de cette incarnation. Et donc, incarnation, il s'agit bien de chair. Et donc, quand je parle de chair, je parle de l'être entier. Je ne fais aucune séparation avec un quelconque esprit. L'esprit fait partie de ma chair, l'intelligence, l'affectivité, l'instinct, l'histoire, le caractère, la psychologie, tout ce que vous voulez, tout ce qui vous fait absolument unique. C'est ça que j'appelle la chair, et c'est cette chair, c'est à cette chair que je crois en vue de la résurrection. Dans le credo, je crois à la résurrection de la chair. Je crois à la résurrection de la chair parce que je ne suis rien sans chair. Donc il n'y a pas de résurrection s'il n'y a pas la résurrection de la chair. Voilà. Alors, libre, la question la plus difficile, évidemment. Tout le reste est bien plus simple que ça. Alors mon point de vue est évidemment celui d'un croyant et celui en plus d'un religieux et d'un religieux chrétien. Je suis dominicain et je vis dans un couvent à Lille. Voilà, je suis religieux dominicain. Et donc, évidemment, je vous parle à partir de ma propre expérience et de ma propre chair. Et je parle toujours à partir de ma chair. Sinon, c'est du bidon, du pipeau, du baratin. Et comme je parle à partir de ma propre chair, personne ne peut juger. Eh oui, voilà ma première liberté, et ma plus grande, et je la revendique. Et vous pouvez publier. Alors, je crois vraiment, vraiment, que c'est dans l'Évangile que j'ai trouvé la liberté. Je dis cela depuis très longtemps, et je crois que c'est vrai. Je crois, si on m'interroge là-dessus, c'est ma première réponse, et je ne suis pas sûr d'en avoir une autre. Voilà, c'est formidable. Mais c'est dans l'Évangile que j'ai trouvé cette liberté, une liberté que j'ai tout de suite repéré comme fondamental et comme total, sans limite. Dans l'Évangile, il n'y en a pas. La liberté est sans limite. Et donc, quand je dis que c'est dans l'Évangile, eh bien, c'est parce que l'Évangile est une parole. Et donc, c'est la rencontre, ma rencontre, avec une parole. Et une parole n'est une parole que si elle est libre. Sinon, là encore, c'est plus une parole, c'est du slogan, c'est du baratin, c'est de la publicité. Voilà. Mais si c'est une parole, et si c'est la parole. Voilà. Ça va, oui, vous me suivez. Bon, c'est bien. Dans l'Évangile, il n'y a pas de leçon de morale. Jamais. Jamais, moi je n'en trouve pas. Sauf, de temps en temps, Jésus fait la morale à ceux qui font la morale, c'est-à-dire aux pharisiens. Et Jésus, en effet, quand il s'adresse de façon très précise, très particulière aux pharisiens, eh bien, il leur fait la morale, parce qu'ils sont des moralisateurs. Et dans l'Évangile, je ne trouve jamais de condamnation de quoi que ce soit, toujours un accueil sans condition. Et le Christ nous dévoile dans sa parole l'amour de Dieu, l'amour du Père. Alors, dans ce que je vous raconte, dans l'Évangile, tout est question de relation. Et je crois que dans le christianisme, dans notre religion, tout est une question de relation. De relation avec Dieu, ou avec la Trinité, ou avec l'Esprit, ou avec le Fils, ou de relation avec la parole. Parce que la parole est vivante. C'est quelqu'un. On a cette chance d'une parole qui est quelqu'un et qui est donc libre et avec laquelle je puis être en relation. Alors, ce regard de Jésus que nous propose l'Évangile est toujours positif. À la différence de ce que nous, enfin de ce que moi, je rencontre ailleurs. En général, le regard que l'on porte sur moi est négatif, à peu près partout, sauf là, sauf dans l'Évangile. Quand je dis partout, je dis même dans ma communauté. Même on est des frères, vous savez. Et bon. Enfin, vous avez peut-être l'expérience en famille, voilà, vous n'êtes pas très différent. Et donc, l'Évangile peut nous apprendre, nous former à nous affranchir du regard négatif des autres. On s'assoit dessus. Oui, non, c'est long. Alors, moi, j'ai 60 ans, Donc voilà, j'ai déjà bourlingué. Et à 20 ans, c'est bien plus dur. On en bave. Et voilà. À 60 ans, ça y est, on commence à être un peu établi. Puis les autres, ben voilà. Alors, je crois aussi que la fréquentation de l'Évangile m'a fait découvrir la différence entre la foi et la religion. Et donc, évidemment, je suis toujours du côté de la foi, parce que la foi est libre, parce que la foi est vivante, parce qu'il s'agit de quelqu'un que je rencontre, quelqu'un que j'aime, quelqu'un qui m'aime, etc. La religion, c'est un tout petit peu plus encombrant. Alors, je suis prêtre, je suis religieux, dominicain, enfin, je cumule les handicaps, quand je... Vous voyez, mais on peut pas... personne n'est parfait. Et donc, quand je fais cette distinction entre la foi et la religion, ça n'est pas pour nier une part de moi-même. Non, c'est simplement pour resituer, pour hiérarchiser ce qui compte, c'est-à-dire le primat, c'est évidemment la foi, la relation à Dieu, etc. Cet échange, cette rencontre, cet amour. La religion, mais il faut la regarder comme un accessoire. C'est un accessoire au service des personnes. La religion, elle est là pour vous aider à approcher Dieu, à le connaître, etc. Si elle fait l'inverse, ben, faut arrêter. faut changer, il faut s'en aller, il faut je sais pas quoi. Hein. Donc voilà, je clarifie ça. Hein. Alors, évidemment, cette liberté qui vient de l'Évangile, de la parole, hein, c'est ronflant, mais je l'ai vérifié dans des personnes que j'ai eu la chance de rencontrer, et en étant déjà très jeune, par exemple, pour ceux qui le connaissent, j'ai connu Gérard Daucourt à 15 ans, Et Gérard Daucourt, c'est une personnalité qui compte dans ma vie à un point que vous ne pouvez pas mesurer, que lui-même ne mesure pas d'ailleurs, même si je lui dis, mais je ne serais pas là aujourd'hui, je ne serais pas dominicain, je ne serais pas, etc., si je n'avais pas rencontré Gérard Daucourt. Voilà une figure pour moi, voilà, par exemple, hein. Je crois quand même que je suis un peu plus libre que lui, mais bon, on en débattra un jour ensemble, voilà. Mais j'ai rencontré donc des gens, des hommes, des femmes, des gens libres, et alors pas seulement des vivants justement, mais certains sont morts de ces vivants. Par exemple, Lacordaire, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Lacordaire. Lacordaire a restauré l'ordre dominicain en France au XIXe siècle. Et moi, quand j'ai rencontré Lacordaire, quand je l'ai rencontré par la lecture, ah mon Dieu, mais tout d'un coup, là aussi, des portes qui s'ouvrent. Hein. Alors, pour certains d'entre vous aussi qui le connaissent, le père Lataste, voilà. J'ai connu le père Lataste à 15 ans. Par Gérard Daucourt, voilà. Et donc, oui, on est en famille. Hein. Voilà. Et le père, voilà, 15 ans, moi, j'étais dans ce monde-là. Ben voilà. Après, vous savez, plus rien, enfin, plus grand-chose ne peut vous contraindre. Hein. Voilà, donc, je vais vous citer Lacordaire. Alors, je suis très émotif, hein. Mais ne vous affolez pas, normalement je gère. S'il y a une catastrophe, vous verrez bien, mais normalement, voilà, donc il peut y avoir une seconde d'étranglement, mais voilà, n'ayez pas peur, ça fait partie de ma chair, et j'y peux rien, et tant pis, quoi. Donc je cite Lacordaire, « J'étais bien jeune encore, je vis cette capitale, Paris, où la curiosité, l'imagination, la soif d'apprendre me faisaient croire que les secrets du monde m'étaient révélés. Son poids m'accabla et je fus chrétien. Chrétien, je fus prêtre. » C'est extraordinaire, il dit sa vocation et c'est exactement ça. « Laissez-moi m'en réjouir, messieurs, car je ne connus jamais mieux la liberté que le jour où j'en reçus avec l'onction sainte le droit de parler de Dieu. L'univers s'ouvrit alors devant moi et je compris qu'il y avait dans l'homme quelque chose d'inaliénable, de divin, d'éternellement libre, je crie, non ? D'éternellement libre, la parole. La parole du prêtre m'était confiée et il m'était dit de la porter aux extrémités du monde, sans que personne eût le droit de sceller mes lèvres un seul jour de ma vie. » Voilà. Ça, moi, je l'ai un peu hurlé, d'ailleurs, excusez-moi. Mais ça, ah ben oui, voilà. Donc, quand on rencontre des gens comme ça, vous savez, ça aide. La distinction, hein, entre la religion, la foi, hein, c'est, dans la foi, il est question, hein, je l'ai dit, de relations, de rencontres, et dans la religion, il est davantage question de règles, de normes, de conformité, de consensus. Voilà. Et la religion, dès qu'elle asservit l'homme, pour moi, elle est mauvaise. Or, je parle de toutes les religions, hein, là. Et je trouve que, voilà, on est dans un monde où on voudrait quand même se passer de beaucoup de religions. Je ne veux pas les opposer, hein, mais la religion doit rester absolument au service de la foi et au service de la personne croyante. Hein, sinon, voilà. Et par rapport à tout, c'est ma conscience personnelle qui a le dernier mot, toujours. Toujours. C'est cette chose inaliénable dans l'homme. Je cite Julien Green dans son journal 1935, « L'homme est libre, mais il fait de telle sorte qu'il se croit prisonnier dans une geôle étroite. Comme il aime sa geôle, il l'appelle fatalité, religion, destin, patrie. » Je suis tout à fait d'accord avec ça. Voilà. Alors là, permettez-moi tout d'un coup de me citer. C'est, voilà, là, une modestie assez remarquable. Donc, dans un livre remarquable qui s'appelle « Oser la chair », il y a un chapitre sur la vérité et la liberté. Donc, je crois que les formules sont intéressantes, alors je vais vous les partager. À partir de Jean 8, 36, hein, de l'évangile de Jean, « Si le Fils vous libère, vous serez réellement libre. » C'est une des plus grandes phrases de l'Évangile. Si vous voulez vous faire du bien, de temps en temps, hein, il faut lire Saint Jean. Alors, si vous ne comprenez pas, ce n'est pas grave. Hein, au commencement était le Verbe, etc. Mais ça ne fait rien, il y a un peu de poésie, quoi. Mais il y a des phrases comme ça, « Si le Fils vous libère, vous serez réellement libre. » Ou bien, dans sa première lettre, hein, « Celui qui aime connaît Dieu. » Il est né de Dieu. Paf. Vous voyez la religion là. Celui qui aime connaît Dieu. Il est né de Dieu. Une phrase après, celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu. Le prêtre qui n'aime pas ne connaît pas Dieu. Le religieux dominicain qui n'aime pas ne connaît pas Dieu. Oui, non, mais tout ça, ça aide à être libre. Hein. Non, d'accord. Bon. Donc, si le Fils vous libère, vous serez libre. Voilà ce que dit Jean-Pierre Brice-Olivier dans son livre « Oser la chair ». La vérité n'est pas affaire de slogans ou de discours établis auxquels il suffirait d'adhérer pour gagner la liberté. Même une parole ne délivre pas. Seul celui qui la prononce peut m'affranchir. La vérité est là dans ce face-à-face. C'est purement dans un lien délié entre deux êtres que la liberté et la vérité prennent sens. Elles ne se laissent pas saisir, elles se reçoivent de personne à personne. On ne peut être qu'un témoin de la vérité, même de celle de soi. Quand il garantit la liberté, Jésus annonce ce qui n'est jamais exprimé ailleurs. Dieu fait l'homme souverain, à son image, totalement unique, distinct de lui et séparé de tous. Il désire une personne qui ne ressemble à aucune autre. Quelqu'un libre de tout, du monde, des autres, de la religion, de ses origines, de ses héritages multiples, de son histoire, libre de Dieu aussi. un homme dans sa solitude sublime, hors de tout jugement, inatteignable, qui cultive son unicité, va à la conquête de lui-même, s'y jette comme en haute mer et sonde ses profondeurs. Voilà. Voilà. Libre.
Qu'est-ce que ça veut dire, libre de Dieu ?
Oui, oui. J'ai encore quelques heures à causer, vous savez. Libre de Dieu. Oui. Si je suis libre à l'image de Dieu, je suis libre de tout, y compris de ma propre histoire. Et libre de Dieu, c'est-à-dire Dieu me fait libre de lui-même, sinon je ne suis plus libre. C'est tout. Mais c'est essentiel. Or, on l'oublie. On l'oublie parce que le psaume que je vous ai lu au début, hein, où on dit que Dieu m'a tissé les reins, je ne sais plus lequel c'est, mais... toi qui as créé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Alors on se dit, ben à partir de là, je ne peux plus être libre. Dieu m'a fait comme je suis, et donc où est mon libre arbitre, où est ma liberté? Mais non, enfin, Dieu m'a fait, mais Dieu me veut libre, et libre de moi-même. Je pense que des parents peuvent avoir une expérience un peu semblable, s'ils sont des bons parents, c'est-à-dire que leurs enfants doivent être libres d'eux-mêmes. C'est pas parce qu'ils ont fait des gosses que les gosses leur appartiennent. Enfin voilà, c'est des expériences comme ça où on ne met jamais la main sur un autre, jamais. Même si on est parent, même si on est éducateur, même si on est prêtre, même si on est Dieu. Ça va ? Voilà. Et donc Dieu, mesdames et messieurs, et il est le seul, parce que voilà, ne me veut pas autre que je suis. Dieu ne me veut pas autre que je suis. Moi, je me veux un peu autre. J'ai 60 ans, alors j'ai déjà beaucoup progressé. Hein, mais vous voyez, je serais mieux avec 10 kilos de moins, je serais mieux avec, je ne sais pas quoi, un peu plus de muscles, je ne sais pas quoi. Hein. Alors après, du point de vue du caractère, je garde ça secret. Hein. Mais non, j'aimerais être doux, alors que je le suis. Mais tout, ça fait 50 ans qu'on me dit que je suis dur, et j'ai du mal avec ça, par exemple. Or, c'est un mensonge, je ne suis pas dur. Je suis très, voilà. Mais, bon, oui, la douceur, oui, peut-être. Mais enfin, voilà. Moi, je me voudrais un peu différent, plus beaucoup. Et les autres, oh là là, alors là, si vous consultez les Dominicains de Lille, hein, ça, ils me veulent très différent. Oh là là, mais oui, les autres me veulent autrement. Et donc, il y en a un qui ne me veut pas autrement que ce que je suis. Mais pas du tout, hein, il ne me demande rien. Non, je vous assure. C'est Dieu. Et quand je parle de moi, je parle de vous, hein. Je ne suis pas une exception, hein. Là, en l'occurrence, hein, quand je dis « je », c'est vous. Hein. Ah mais non ! Non, non, parce que dans ce cas-là, il n'avait qu'à se débrouiller. Je ne peux pas exagérer non plus. Hein. On veut bien assumer. Non, non, mais ça, c'est très important. On a au moins ce refuge, vous savez, quand le monde entier... ne vous aime pas beaucoup et vous fait des reproches, tout d'un coup, on a au moins ce refuge-là de quelqu'un qui nous aime exactement tel qu'on est et qui n'exige de nous rien. Rien. Non, non, il ne me veut pas plus gentil. Non, je suis très gentil, il le sait. Et non, non, non. Qu'un problème. Alors, la liberté, c'est un peu décousu, hein, mon affaire. Non, mais j'en suis conscient, hein. C'est pas grave. La liberté, c'est peut-être aussi de pouvoir choisir, c'est-à-dire de décider d'être ce que je n'ai pas choisi. Vous me suivez ? Bravo, bravo, il y en a un ou deux qui me suivent. Non, mais... Oui, je vais répéter. Non, mais par exemple, j'ai les yeux bleus. Oh, j'ai pas de chance. Oh, pas de chance d'avoir les yeux bleus. J'aurais tellement aimé avoir des yeux noisettes. Hein? Bon, mais j'y peux rien. Je garde mes yeux bleus. Mais je peux peut-être décider que c'est bien et je choisis d'avoir des yeux bleus. C'est ça que je veux dire. On ne comprend pas. Bon, je répète. La liberté, c'est peut-être aussi de pouvoir choisir et décider d'être ce que je n'ai pas choisi. Vous voulez expliquer ?
Donc voilà.
Ah, c'est pas s'accepter. S'accepter, c'est défaitiste. C'est choisir. C'est se réjouir, c'est waouh, allez-y.
Et donc, un gars qui est handicapé va se réjouir.
Pourquoi pas ? Moi, je pense que l'on peut être libre dans une situation comme ça. Et je connais des gens qui le sont. Ah ben oui, sinon, il n'y a pas de bonnes nouvelles. Oui. Ah ben oui, sinon c'est du désespoir et c'est fini et on se flingue. Vous voyez ? Ah mais bien sûr, mais ça fait 60 ans. Oui. Non, c'est très important. Mais je n'ai pas dit se réjouir, j'ai dit choisir et décider d'être ce que je n'ai pas choisi. Alors après, je peux arriver à en être content. Mais moi, j'ai rencontré des gens qui étaient aveugles ou je sais pas quoi, et qui, oui, et qui tout d'un coup vous disent, ah oui, que c'est finalement une bénédiction qu'ils le soient. Mais ça, il n'y a qu'eux qui peuvent le dire. Personne d'autre n'a le droit de le dire. Hein. Mais pourquoi pas ? Vous savez, moi, je pense que il est des êtres infiniment, profondément libres, intérieurement libres, qui sont en tôle. Hein. C'est possible. Mais ça, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Hein. Les aveugles voient, les boiteux dansent, les sourds entendent, les prisonniers sont libérés. Eh ben, excusez-moi, les prisonniers sont libérés, ça ne veut pas dire qu'on ouvre les prisons. Ça veut dire que dans leur prison, ça veut dire que moi, dans ma propre prison, je peux découvrir une liberté. Si. On a des témoignages de ça. Vraiment, vraiment, je crois. Heureusement. Jean 2, 1, 11. Évangile de Jean. Le troisième jour, il y eut des noces à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut invité aux noces, ainsi que ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond, « Femme, qu'avons-nous de commun dans cette affaire ? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune 2 ou 3 mesures, c'est-à-dire 100 litres. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces jarres. » Ils les remplirent à ras-bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'organisateur du repas. » Ils lui emportèrent. Quand l'organisateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, il ne savait pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient. Il appelle le marié et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis quand les gens sont ivres, le moins bon. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut le commencement des signes de Jésus, ce qu'il fit à Cana de Galilée. Le premier signe public donné par Jésus a lieu au cours d'un repas de noces et nous savons l'importance que revêt dans l'Écriture le festin des noces. La mère de Jésus était invitée, Jésus aussi avec ses disciples, les amis des amis. Jésus est l'hôte invité et il va devenir l'hôte qui reçoit. Dans la langue française, le terme hôte signifie à la fois celui qui donne l'hospitalité et celui qui est reçu. Le même mot désigne ensemble l'hôtelier et le convive. Très beau concept qui nous place à égalité et à égalité de réception. Je suis votre hôte et vous êtes mes hôtes. Celui qui accueille bénéficie de la visitation de l'autre qui lui-même donne par sa présence autant qu'il reçoit. En effet, dans une rencontre, toutes les personnes sont des hôtes. Aucune différence ni redevance. Magnifique échange où il n'y a ni accueillant ni accueilli, ni riche ni pauvre, ni donateur ni quêteur, mais des personnes en présence qui se donnent, toutes bénéficiaires. Et il s'agit bien là de noces, de rendez-vous nuptial. Et donc même le plus étranger, le plus éloigné de moi devient mon proche. Il me fait ce don. De même, le plus lointain, celui qui ne me ressemble pas, celui d'un autre monde. Non seulement le plus étranger à ma culture peut se faire mon prochain, mais encore le plus pauvre, l'exclu, l'humilié, le plus abîmé. Et dans cet échange, il a toute sa place, hors toute condescendance. Souvenons-nous que Dieu est par excellence dans notre monde le plus rejeté, le plus banni, et qu'il se fait le pauvre et le mendiant. Or, on manqua de vin à Cana. Et donc, à Cana, c'est bien par le manque que va se manifester la surabondance. Et cette prodigalité surviendra par l'invité. Magnifique, magnifique, hein, dans notre société qui s'inquiète, hein, de l'afflux d'étrangers. Eh bien, tout d'un coup, l'étranger peut apporter quelque chose. Ils n'ont plus de vin et se retrouvent avec 600 litres. Hein, 3 jars de 100 litres. Non, moi je ne sais plus, 6 jars, je ne sais plus. Enfin, ça fait 600 litres au total. Hein. Donc c'est colossal. 600 litres et du très bon vin. Donc là, on est quand même dans l'excès. Mais c'est exactement ça l'œuvre du bon Dieu. C'est que vous êtes dans le manque, quelque chose vous manque, vous estimez que quelque chose manque à vous-même, et c'est à partir de là que la surabondance va arriver. C'est formidable. Voilà ce que fait Dieu. Mais oui, mais oui. Jésus renverse, retourne une situation qui pourrait être un désastre. Et tout d'un coup, être dans le manque devient une bénédiction. C'est la générosité du don de Dieu à profusion. C'est à partir du manque que Dieu se manifeste dans la surabondance. Et donc, nous pouvons nous réjouir de nos propres manques ou de ce que nous estimons être des manques et qui peuvent devenir des lieux de la grâce et de la grâce en plénitude. C'est de notre peine que peut s'élancer la joie, c'est dans notre désert que peut sourdre une eau vive, c'est de notre nuit que peut jaillir la lumière, c'est de notre mal que peut sortir le bien, c'est de notre mort que peut surgir la vie. Et donc c'est bien à partir de nos défauts, entre guillemets, de notre pauvreté, de nos incapacités, que Dieu peut révéler sa prodigalité. C'est dans notre propre déficience, ou ce que nous estimons tel, que Dieu peut intervenir et nous combler. Romains 5, 3, « Nous mettons notre orgueil dans la détresse elle-même. » C'est ce que dit saint Paul. « Nous mettons notre orgueil dans la détresse elle-même. » Alors, peut-être les plus pauvres d'entre nous le savent, par expérience. C'est dans notre misère, même la plus cachée, que Dieu vient et qu'il nous comble à sa mesure sans mesure. Jésus inverse ce qui pourrait ressembler à un désastre. Et donc, c'est notre déchirure, notre blessure, qui peut devenir un seuil pour accueillir la grâce, la plénitude de la surabondance de Dieu. À Cana, Jésus devient le maître des noces par cette action. Il devient l'époux. Alors son ministère public s'ouvre par ce banquet de Cana où l'eau est transformée en vin, et puis il s'achèvera par un autre repas plus intime, le repas pascal, où le vin est transformé en son propre sang. Le festin de chaque Eucharistie, où nos insuffisances sont les bienvenues, où ceux qui n'ont pas accès à cette communion peuvent être, dans leur manque, comblés par Dieu bien au-delà de leur espérance. Marc 10, 17, 22. Jésus se mettait en route quand un homme accourut et tombant à ses genoux lui demanda: Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage? Jésus lui dit: Pourquoi dire que je suis bon? Personne n'est bon, sinon Dieu seul. Tu connais les commandements: ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. L'homme répondit: Maître, tout cela, je l'ai observé depuis ma jeunesse. Jésus posa son regard sur lui et il l'aima. Il lui dit: « Une seule chose te manque. va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres, alors tu auras un trésor au ciel, puis viens, suis-moi. » Mais lui, à ces mots, devint sombre et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. On connaît hein, cette histoire. Alors évidemment, on est toujours bouleversé par le regard de Jésus qui se prend à l'aimer, quoi. Évidemment. Mais je pense que ça n'est pas exceptionnel. Hein. Je pense que ce regard de Jésus se portait de la même manière sur tous ceux qu'il rencontrait. Hein. Ça n'est pas parce qu'il est jeune, ça n'est pas parce que c'est un homme, et ce n'est pas parce qu'il est riche. Et ce n'est pas par... Enfin, vous voyez, non, je pense que... Voilà, il le rencontre. Hein. Et alors, c'est extraordinaire quand même, ce qui manque. C'est extraordinaire, vous avez entendu le texte. Ce qui manque à ce jeune homme, c'est que rien ne lui manque. Extraordinaire. Ce qui lui manque, c'est de ne pas manquer, c'est de ne pas avoir de manque. Hein, il est dans une je sais pas quoi moi, une sphère. Hein, il y a aucune prise, il y a une perfection quoi. Il y a une auto, je sais pas quoi. Hein. Il lui manque de ne pas manquer. Voilà, donc vous voyez, regardez le manque hein, à Cana dans l'Évangile et cette histoire du jeune homme riche avec le manque. Et tout d'un coup, vraiment, le manque n'est plus le manque. Peut-être avez-vous observé tous les commandements depuis votre jeunesse, comme ce jeune homme, hein. Eh bien, cela ne suffit pas. Non, mais c'est toujours mon histoire avec la religion, vous voyez. Ah, il a pratiqué la religion, hein, de façon parfaite, ce jeune homme. Ah oui, mais vous savez, ça aussi, c'est un bien. Hein. Il avait de grands biens. Il avait de grands biens, mais c'est aussi cette satisfaction. Hein. Il pratique tous les commandements. Hein. Il est dans cette perfection-là. Cette perfection religieuse, ça sert à rien. Donc, ne rien posséder, et suis-moi. Enfin, c'est le suivre, hein, marcher derrière, marcher avec Jésus. Parce que vous avez entendu la formulation de la question. D'abord, il dit à Jésus, bon maître. Ça commence très mal, mais une flatterie déjà. Hein. Bon maître. Alors Jésus, chaque fois dans l'Évangile que l'on essaie d'attribuer à Jésus le qualificatif de bon, il le récuse. Vous pouvez lire l'Évangile, vous verrez. C'est très intéressant. Nul n'est bon que Dieu seul, répond Jésus. Et c'est vrai. Tout le monde prétend vouloir être bon. Moi, je veux être bon avec vous. Et donc, comme pour être bon avec vous, je sais ce qui est bon pour vous et je vais vous l'imposer. Ah ben oui. Mais savoir ce qui est bon pour l'autre est meurtrier. Mais les parents le savent, là encore. Je sais ce qui est bon pour mes enfants, donc je vais leur imposer sous peine de mort. Hein. Je vais prendre un exemple qui est un peu choquant et caricatural. Je sais comment une femme doit s'habiller. Hein. Si elle ne s'habille pas de cette manière-là, je la tue. Ça vous fait penser à... Non, je ne suis pas obligé d'expliciter quand même. Voilà. Eh bien, voilà. On sait ce qui est bon pour l'autre, et donc on lui impose... C'est le fruit de l'arbre d'Adam et Ève, hein, le bien et le mal. Ah, si je sais le bien et le mal pour l'autre, c'est meurtrier, forcément. Si je sais son mal, je vais lui interdire. Si je sais son bien, je vais le contraindre. C'est impossible. Moi-même, je ne sais pas ce qui est bon pour moi. Comment je vais prétendre savoir ce qui est bon pour vous ? Seul Dieu a cette connaissance. Donc, seul Dieu peut être bon. Vous voyez ? Et Jésus sent le piège, hein, bon maître. Voilà. Hein, si vous me dites bon, je suis piégé. Je peux pas être. Je ne suis plus libre de vous dire ce que je veux vous dire, puisqu'il faut que je fasse attention d'être bon. Hein. C'est affreux. C'est affreux. Voilà. Et alors, vous avez donc bon maître. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage? Ah, mais là, il cumule, quoi. Non, non, c'est terrible. Hein, moi, je vous dis, la foi, c'est de la relation, c'est de personne à personne. Et puis là, tout d'un coup, lui, c'est il faut faire, hein, pour avoir et pour hériter. Parce que dans ces familles, on hérite. Hein, très riche, on hérite. Donc, terrible. Il veut faire pour avoir et hériter. Voilà la plus grande tristesse. Et là c'est cet aspect. Hein. Donc, j'y ai fait allusion déjà plusieurs fois, donc de côté religion, quoi. Ben, non. C'est bien, hein, de respecter les commandements. Non, je suis d'accord. Hein. Mais il y a plus que ça, il y a « viens », il y a « suis-moi ». C'est être avec, c'est de personne à personne, c'est là encore de la relation. Et, enfin, ce que je vous répète depuis 55 minutes, et donc je m'arrête.